Donc c'est le plus mou, si vous voulez.
L'éponge.
Le plus friable.
Dit...
Oui, bah, il dit l'éponge.
J'ai dit l'éponge.
Mais oui, il a dit l'éponge.
C'est pas un minéral, c'est un animal.
La boue.
La boue, non. La boue, non.
La boue.
Et nous, on a aimé ça.
Ah, c'est encore plus mou que la mou.
On est tous passés par là.
On est tous passés par là.
Le coton. Non, bah, le coton n'est pas un minéral.
Non, je sais. Bah oui, mais j'aimais ça, moi, quand j'étais petit. Voilà, je cherche ce que j'aimais.
Mais vous n'êtes pas loin. Pensez à votre maman qui est là.
Le placenta.
Le placenta, non, quand même pas.
La pierre ponce.
La pierre ponce. Oh bah oui, c'est mou, la pierre ponce.
Mais
le,
non.
Le talc.
Comment ?
Le talc.
Le talc. C'est... Excellente réponse de Karina Marimont.
Alors là, le talc, c'est un minéral.
Oui. Le talc, et c'est un minéral, c'est le premier des minéraux dans l'échelle de Mohs. Vous avez le talc, ensuite le gypse, ensuite le calcite.
La poudre de talc, peut-être.
Oui, friable, sous l'ongle, le talc.
Pierre,
Et après, vous avez le quartz, le topaz, le corindon, et ça se termine par le diamant. Voici de 1 à 10 les minéraux de l'échelle de Mohs. Et on a tous aimé être talqués, vous voyez.
Bien sûr.
Mais on aime encore.
Bien sûr.
On se rappelle pas, moi je me rappelle pas.
Si, moi je me rappelle.
Quoi. Oui, mais vous, c'était il y a deux jours.
Vraiment, vous êtes bon du talc au talc.
Tous les week-ends, retrouvez les meilleurs moments des grosses têtes. Les meilleurs moments des grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça revient demain, évidemment, dès 15h30. Et à propos de demain d'ailleurs, ne loupez surtout pas le confidentiel consacré à Alain Colas. Vous savez, ce marin de légende, disparu en mer à bord de son bateau, le Manureva. Histoire d'ailleurs qui a inspiré le tube d'Alain Chamfort. Tube que vous connaissez tous. C'est demain, confidentiel, 19h15 sur RTL. Mais tout de suite, retour sur la terre ferme, pour un point complet sur l'actu, puisqu'il est 18h. RTL dimanche soir, Guillaume Ouattara. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Oui, RTL dimanche soir, c'est parti. Une demi-heure pour vous informer. Avant de refaire le sport avec Cédric Chasseur, 18h30, 19h, suivi d'une émission spéciale arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Ça sera entre 19h et 21h. La dernière étape, vous la suivez évidemment depuis 16h sur notre antenne. Une étape pour l'honneur, mais aussi une étape pour le sport. 132 km avant cette belle arrivée sur les Champs et la butte Montmartre pour le plaisir de faire chauffer les cuisses et l'ambiance des spectateurs. Et on vous retrouve en direct, Nicolas Georgerot. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, où en est-on de cette 21e et dernière étape?
18 km encore à parcourir depuis 2 km et depuis 3 minutes précisément. Tadej Pogacar et le peloton viennent d'entrer dans Paris sur les quais de Seine actuellement, avant de s'approcher du circuit final autour des Tuileries de la butte Montmartre. La foule au bord de la route et dans une dizaine de minutes le premier passage sur les Champs-Élysées.
Et merci beaucoup Nicolas Georgerot. On vous retrouve dès le début de ce journal. On entend derrière vous la ferveur qui monte. On sera aussi sur la butte Montmartre justement, avec eh bien tous celles et toutes ceux qui sont venus voir le tour. Dans cette édition de RTL Soir, on va revenir évidemment sur ces incendies dans l'Aude. Le feu est fixé, mais les pompiers toujours mobilisés. Plus de 600 hectares parcourus par les flammes et des conditions météo toujours propices à une reprise. La tendance d'ailleurs pour votre lundi. Valérie Quintin, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Encore une journée bien instable demain sur une très grande partie du pays.
Oui, nous allons garder le même type de temps très instable partout en France, un petit peu frais sur la moitié nord. Alors, il y aura du soleil, bien sûr, pour les régions méditerranéennes, mais ce sera au prix de très fortes rafales de vent, puisque Mistral et Tramontane vont à nouveau se renforcer demain. Ils souffleront même un petit peu plus fort qu'aujourd'hui.
On fait la météo complète en fin de journal. Dans cette édition, on va vous parler des droits de douane et de cette réunion de la dernière chance en Écosse entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. Réunion qui vient de commencer. Le président américain et la présidente de la Commission européenne sont en train de prendre la parole, de fixer les grands enjeux. Va-t-on voir une augmentation des droits de douane à hauteur de 30% sur les importations européennes? Ce serait le scénario catastrophe, le scénario noir qu'Ursula von der Leyen ne veut pas voir. On vous dit tout dans un instant parce que ça se passe en ce moment en Écosse et c'est sur l'antenne de RTL. On va aussi vous parler ce soir de la militarisation de la journée de défense et de citoyenneté. Vous savez, c'est une journée obligatoire entre 16 et 25 ans avec des tests d'orthographe. Eh bien, à partir de la rentrée de septembre, elle sera organisée autour de la journée type d'un soldat. On vous dit tout. Dans cette édition, on reviendra sur les premières livraisons d'aide humanitaire à Gaza depuis le blocus instauré il y a 5 mois par Israël. Le soulagement pour les ONG. On vous parlera aussi du jubilé jeune qui s'ouvre demain au Vatican pour des milliers de catholiques du monde entier. Et puis, on vous emmènera dans les coulisses d'un événement un petit peu particulier comme RTL en a le secret. Le Lotobooz, c'est à Fressin, dans le Nord.
RTL dimanche soir. avec Guillaume Ouattara.
Et on part tout de suite sur la grande boucle.
Tour de France 2025 sur RTL.
Le Tour de France et cette émotion palpable dans le peloton pour cette dernière étape du Tour avec vraiment ces belles images de l'Île-de-France, la campagne et les beaux pavés à l'arrivée. Nicolas Georgerot, les coureurs sont partis, on le disait, il y a un peu plus d'une heure et demie de Mantes-la-Ville dans les Yvelines. Alors comment ça se passe? Vous parliez de Pogacar en tête de peloton.
Oui, tout à l'heure, effectivement, le maillot jaune qui emmenait tout le peloton, ce peloton qui vient de passer au pied de la Tour Eiffel. On est un an après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris et avec ces anneaux qui sont sur la Tour Eiffel, le peloton qui est en train de remonter ses quais de Seine avant de se diriger vers le Louvre pour avoir ce traditionnel passage par la cour carrée du Louvre, entrée sur le circuit traditionnel. Il y a une information importante, c'est que l'organisation a décidé de figer les temps au quatrième passage de la ligne sur les Champs-Élysées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de changement au classement général. Les coureurs, par exemple, qui ne voudront pas prendre de risques à Montmartre et notamment dans la descente, pourront se laisser décrocher du peloton. Ils ne seront pas pénalisés pour la perte de temps. Tout cela parce que tout à l'heure, il y a eu de la pluie. La chaussée est à certains endroits assez glissante. Donc, pas de prise de risque de la part de l'organisation. Il y a évidemment encore le gain de l'étape. Ça n'empêchera pas les attaques. Mais en tout cas, ceux qui ne veulent pas prendre de risques pour le classement général pourront se laisser décrocher. 75 km à parcourir et les Champs-Élysées, le premier passage dans maintenant 7 minutes.
Merci Nicolas Georgerot. On vous retrouve tout au long de cette édition pour nous faire vivre ce tour. Et s'il y a bien un lieu où il faut être ce soir, c'est sur la butte Montmartre où l'on vit un remake des Jeux Olympiques. On vous y retrouve Thibaut Hue au milieu d'une foule, on l'entend en délire.
Oui Guillaume, il y a une ambiance extraordinaire ici rue Le Pic, les trottoirs sont complètement bondés et depuis un peu plus d'une heure le public a sorti son poncho blanc à pois rouges pour se protéger de la pluie, vous l'avez compris, les pavés qui mènent à Montmartre sont brillants, glissants et pour Pierre ça annonce une fin d'étape très spéciale.
Ça va être très dur, ça fait un peu comme le Paris-Roubaix, avec la pluie tout le monde va glisser. Ça va être énorme, on va être très chaud, on va tous encourager, mais ça va être une grande fête.
Et s'il y a une telle effervescence aujourd'hui, c'est aussi grâce à un effet JO. Pierre était là l'année dernière au même endroit.
On est là pour ça, pour revivre la ferveur. On a vécu des moments inoubliables. Quand les pavés qui tremblaient, la foule qui vrombissait. Et on est là aujourd'hui, on pense que ça va être pareil, mieux ou beaucoup mieux.
Julien, lui, est venu très tôt ce matin pour être à seulement quelques mètres des coureurs et il a déjà son pronostic.
J'aimerais bien que Philippe il nous fasse un petit coup d'éclat, un peu de punch, un petit peu de folie, un petit peu de grimpe et puis un peu de roulade avant et ce serait nickel.
Il n'y a pas trop de suspense, mais...
Il n'y a pas de suspense, mais il faut une victoire. Il faut au moins un peu de folie dans cette étape avec un Français.
Voilà, encore un petit peu de patience. Les premiers coureurs devraient arriver dans cette rue, le pic électrique, dans quelques dizaines de minutes.
Et on va suivre tout ça, évidemment, en direct sur l'antenne de RTL. Merci Thibaut. Vous ne manquez pas de 19h à 21h l'émission spéciale Tour de France pour suivre l'arrivée, mais aussi ces beaux moments, le sport, la passion, la bonne humeur, c'est évidemment sur RTL. Dans l'Aude, le feu est désormais fixé, mais les autorités sont très prudentes afin de prévenir toute reprise de l'incendie dans les prochaines heures. Plus de 600 hectares parcourus par les flammes, des centaines de pompiers toujours mobilisés. Et sur le terrain, des associations d'habitants bénévoles apportent une aide précieuse pour les pompiers. Ce sont les comités communaux des feux de forêt et ils sont en première ligne, notamment à Roquefort des Corbières, Valentin Larquier.
Oui, Arthur a 21 ans. Ce bénévole du comité communal des feux de forêt va se souvenir longtemps de ce samedi 26 juillet. En patrouille dans le massif, il a permis l'évacuation rapide de plus de 50 personnes menacées par les flammes.
On a vu une dizaine de personnes sortir en courant en nous signalant qu'il y aurait une dizaine de voitures et une cinquantaine de personnes dans un champ qui faisait une fête. Ils voulaient bien sûr protéger leur habitation parce qu'il y avait une maison et un cheval. Donc on a sorti le cheval et les personnes. On a arrosé avec nos moyens les voitures pour éviter qu'elles brûlent. Quand on est arrivé, le feu était à plus de 150-200 mètres de nous. Et ensuite, on s'est fait encercler par le feu. Mais la fumée était très présente, vu qu'il y avait beaucoup de vent, la fumée rasait le sol.
Et cet après-midi, Arthur a repris le volant du pick-up de l'association. Il vient de boucler une nouvelle patrouille de surveillance.
On retournait sur le feu existant. S'il y avait des petites reprises de feu, on les éteignait de suite pour éviter aux pompiers de venir et pour éviter la propagation.
Vous en avez vu des reprises de feu?
Oui, on a éteint 3 cet après-midi. Ce massif, il est brûlé. Les arbres sont tout noirs, tout est noir, c'est très triste et ça fait peur.
Hier, plus de 1000 personnes ont été évacuées et il n'y a pas eu de blessés.
Valentin Larquier, correspondant de RTL dans l'Aude. Notez cette alerte incendie. Dimanche après-midi, au Cap d'Agde, un feu s'est déclaré dans la réserve naturelle de Bagnas. Il menace le village naturiste et le quartier du Maraval. Deux canadaires sont mobilisés. Pour l'heure, le feu est maîtrisé, mais 100 pompiers restent sur place pour surveiller la zone. Et puis, autre départ de feu dans les Bouches-du-Rhône. Cette fois, c'est à Châteauneuf-les-Martigues, près d'Istres. Plusieurs milliers de mètres carrés de terrain sont partis en fumée. Là aussi, les pompiers sont sur le pied de guerre pour contrôler les flammes. À Limoges, 200 personnes ont manifesté dimanche pour dénoncer les propos du maire Émile Roger Lomberti, accusé de stigmatiser les habitants du quartier du Val de Laurence après des violences urbaines. Le week-end dernier, l'élu avait évoqué une mexicanisation des quartiers et des enfants soldats, suscitant une vive émotion. Plusieurs élus locaux et associations ont condamné des déclarations qu'ils jugent inacceptables. À 18h08 sur RTL, on vous parle du destin commercial de l'Europe qui se joue depuis quelques minutes sur le terrain de golf de Trump à Thornbury. Alors, pas sur le green, mais dans un bureau où Donald Trump reçoit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et comme il en a l'habitude, il vient, Marie Billon, d'improviser une petite conférence de presse pour donner tous les détails et toutes les informations sur les enjeux de cette rencontre bilatérale.
Oui, effectivement, une manière de se mettre en bouche un petit peu devant les caméras. Ursula von der Leyen a dit que Donald Trump était un négociateur dur en affaires et il a de suite rajouté dur, mais juste. Et il a voulu rappeler à quel point ce deal serait important à faire. Le plus grand partenariat commercial du monde, c'est ce qu'il a dit. Voilà les enjeux qui ont été posés. Alors le but, c'est d'éviter qu'à partir du 1er août, il y ait des droits de douane imposés à l'Europe de 30%. C'est pour ça donc que Ursula von der Leyen est en Écosse et que Maro Sefcovic, le commissaire au commerce, est avec elle. Ils s'entretiennent donc actuellement avec Donald Trump et son équipe de représentants du commerce qui sont aussi venus de Washington. Le but est de finalement s'entendre sur des droits de douane de 15%. Ce serait la moitié de moins que la menace qui pèse sur les Européens en ce moment, mais ce serait quand même 5% de plus que le deal qu'ont obtenu les Britanniques et évidemment 3 fois plus que ce que l'Europe avait avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donald Trump qui veut superviser personnellement ces négociations parce qu'il veut conclure lui-même le deal, d'où des grands espoirs aujourd'hui pour cette rencontre. Si un deal est conclu, il serait le résultat de plus de 200 heures de négociations entre Bruxelles et Washington. Et bien sûr, ça rassurerait les investisseurs et les acteurs du commerce des deux côtés de l'Atlantique.
Merci beaucoup Marie Billon. Évidemment, on va suivre tout ça sur RTL dans les flashs ce soir et puis demain dans la matinale. Vous aurez tous les détails. Mais on repart tout de suite sur la grande boucle puisque Nicolas Georgerot, le peloton est en train d'arriver sur les Champs-Élysées.
Le premier passage avec le maillot jaune à l'instant devant nous, sourire aux lèvres qui est emmené par ses équipiers qui sont un petit peu en avant, le peloton derrière, 70 km à parcourir, 3 premiers passages sur la ligne d'arrivée des Champs-Élysées avant les 3 passages ensuite vers la butte Montmartre avec ces images toujours aussi impressionnantes, la foule sur les Champs-Élysées.
Et bah cette foule, vous nous la faites vivre en direct, effectivement, on vous retrouve tout au long de cette édition de RTL Soir. On vous retrouvera aussi dans On refait le sport à partir de 18h30 et puis 19h, le rendez-vous sur RTL. Ça sera évidemment l'émission spéciale consacrée à cette grande finale du Tour de France. Restez avec nous dans un instant dans RTL Soir. On va vous dévoiler le plan d'Emmanuel Macron pour militariser la journée de défense et de citoyenneté. À tout de suite.
RTL dimanche soir.
Guillaume Ouattara.
Tous les jours, Europa Park fête ses 50 ans sur RTL.
Jouez, tentez de gagner un séjour en famille à Europa Park Resort. Plus de 100 attractions et spectacles inoubliables pour petits et grands.
Sans oublier Rue Antica, son univers aquatique.
Rendez-vous demain de 10h à midi pour la bonne touche de l'été sur RTL.
À tous ceux qui sont allés au travail tout nus, à ceux qui ont eu les jambes molles quand ils étaient poursuivis par une bande de méchants, à ceux qui ont perdu leurs dents, comme ça, sans raison, et aux mêmes qui, après ces mauvais rêves, vont avoir besoin d'un petit coup de pouce pour se réveiller. Dès mardi, Intermarché vous offre 30% de remise immédiate sur le lot de 3 paquets de café moulu classique carte noire, soit 10,90€ le lot. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 10 août, 3 fois 250 grammes, soit 14,53 € le kilo. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Guillaume Ouattara,
RTL dimanche soir.
À 18h12 sur RTL, une question. Est-ce que vous vous souvenez de votre journée de défense et de citoyenneté? Si vous avez eu entre 16 et 25 ans après 1997, une journée pour passer des quiz, notamment d'orthographe, ou encore regarder des diapos sur le système militaire. Eh bien, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées en janvier dernier, tout cela est révolu, cette journée va être militarisée. Bonsoir Julien Fautra.
Bonsoir à tous.
Du service politique de RTL. Julien, à quoi va donc ressembler cette nouvelle journée ?
Eh bien, tous ces jeunes se mettront le temps d'une journée dans la peau d'un soldat, une immersion. Le jeune assistera au lever des couleurs et chantera la Marseillaise. La journée commencera comme ça. Des ateliers, ensuite, par groupe. Alors, je vous donne les plus marquants. Du tir, je vous rassure, au laser, pas d'arme létale. Mais ce jeune maniera une arme et apprendra comment la mettre en sécurité. Autre atelier, un jeu de stratégie, une situation de crise. La France entre guerre, un ennemi bien identifié, comme la Russie, l'Iran ou des groupes djihadistes. Il faudra connaître tous les aspects de la guerre à travers le jeu. Je vous donne un petit bonus, le déjeuner. Ce sera des rations de combat. L'armée française est d'ailleurs réputée pour la qualité de ses rations de combat. Ça commence dès cet automne et l'année prochaine en Outre-mer.
Et combien tout cela va-t-il coûter? Est-ce qu'on le sait?
Ah bah pas plus cher qu'aujourd'hui, assure le ministère, autour de 105 millions d'euros par an.
Et alors Julien, quel est l'objectif de cette réforme ?
Ah bah l'objectif, c'est de remettre du lien entre les civils et les militaires, entre les Français et leur armée. Et au ministère, c'est assumé comme tel, séduire pour recruter de futurs soldats ou de futurs réservistes. Tous ceux qui ont connu cette journée ces dernières années, vous savez, il y a un quiz ou un programme télé à déchiffrer, tout ça c'est terminé. Le retour de la guerre en Europe avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie doit remettre dans les esprits de tous que la guerre est possible. Le chef de l'État avait promis de remodeler cette journée de défense et de citoyenneté. Elle se terminera d'ailleurs par la remise du Bleuet de France en mémoire des anciens combattants.
Julien Fautra du service politique de RTL. Notez que dans 5 minutes, nous recevons dans RTL Soir la secrétaire générale du syndicat enseignant SNES-FSU. Elle nous dira ce qu'elle pense de cette évolution pour les jeunes avec lesquels elle travaille. En politique, réunion au sommet entre Rachida Dati et Michel Barnier, le tout sous la houlette de Bruno Retailleau. Objectif, éviter une guerre interne autour de la législative dans la deuxième circonscription de Paris. Demain, la Commission nationale d'investiture des Républicains doit statuer sur le candidat ou la candidate à cette législative partielle. À 18h15 sur RTL, on vous parle du Proche-Orient et de cette aide humanitaire enfin acheminée dans la bande de Gaza. Depuis ce matin, des camions en provenance d'Égypte et chargés de sacs blancs ont pu traverser la frontière. L'armée israélienne a annoncé qu'une pause tactique serait observée quotidiennement de 10h à 20h pour permettre la distribution de l'aide. Pour Amand Bazerolle, la responsable des opérations d'urgence de Médecins Sans Frontières à Gaza, l'ouverture de ce corridor humanitaire est une bonne nouvelle, oui, mais qui arrive bien trop tard.
La situation est horrible. Il n'est pas temps, il est trop tard. Il y a déjà des gens qui sont morts et ça aura des conséquences sur la santé de cette population pour à vie. Aujourd'hui, des retards de croissance, des enfants qui ont été mal nutris, ça va être très difficile pour certains, vu le tableau médical dans lequel ils sont, de réintroduire la nourriture. Il va falloir le faire via des centres de santé pour être avec eux, pour les accompagner parce que leur corps aujourd'hui n'est plus capable de digérer puisqu'il ne l'a pas fait depuis des semaines. Et donc, il va falloir réintroduire et réapprendre ces gestes-là pour certains d'entre eux qui sont dans les situations les plus critiques.
Amand Bazerolle, la responsable des opérations d'urgence de Médecins Sans Frontières à Gaza. Notez qu'à partir de demain, un rendez-vous exceptionnel qui ne revient que tous les 25 ans s'ouvre, le jubilé des jeunes. Près d'un million de jeunes catholiques sont attendus à Rome pour vivre une semaine de célébration, des rencontres et de prières. Un événement comparable au JMJ mais encore plus rare. Parmi eux, 20 000 Français sont attendus. On prend désormais la direction de Fressin, c'est dans le Pas-de-Calais où une association de bénévoles veut récolter des fonds pour sauver leur château. Et ils ont décidé d'organiser un loto-bouze, Romaric Caillé. Le concept est simple, il faut choisir sur une grille la case où les vaches déposeront leur bouze.
Oui, 500 mètres carrés de champ et tout autour des dizaines de personnes qui scrutent victoire. La vache paître en attendant le verdict. Parmi eux, Eric.
J'avais vu les numéros, mais j'avais pas vu les lettres.
Mesdames et messieurs,
vous avez joué quel numéro alors?
G01. Maintenant, faut attendre. Elle n'a pas l'air décidée hein, quand même. Hein. Elle tourne, mais bon.
Car il faut tout de même attendre 45 minutes entre chaque bouse. Nicolas est le propriétaire de Victoire.
Non, pas plus de nourriture. Et là, quand on la voit manger, eh ben, c'est déjà un signe comme quoi elle n'est pas stressée.
Elle a fait sa bouse en
Alors, oh, c'est monsieur qui a gagné. Oh,
bravo, c'est monsieur qui a gagné. Bravo.
Donc c'est bien à où?
Il y a quand même 2 minutes, vous ne saviez pas qu'il y avait des lettres.
Il y a 2 minutes, je ne savais même pas qu'il y avait des lettres, là, je sais qu'on a gagné. Incroyable.
Le principal pour Benjamin, le président de l'association du château de Fressin, c'est de faire connaître le lieu et les vestiges en pierre datant du 15e siècle.
C'est-à-dire que là aujourd'hui, le site il est ce qu'il est parce que l'association avant a fait les travaux, a fait les chemins pour accéder. Tout ça avant, ça n'existait pas.
Et à chacun sa méthode pour encourager la vache et la faire venir sur sa case, l'appeler, meudler, se mettre en costume ou encore frapper dans ses mains avec plus ou moins de succès.
Eh bien, merci beaucoup Romaric Caillé, correspondant vraiment tout terrain de RTL dans le Nord. Allez, on revient vers vous Valérie pour vos prévisions météo pour demain. Très peu de changements, excepté dans le sud. Mais c'est une mauvaise nouvelle puisque les vents vont se renforcer.
Oui, ce sera vraisemblablement la journée la plus ventée de l'épisode. Mistral et Tramontane vont se renforcer. En particulier, dès la mi-journée, les rafales atteindront 90 km/h aux abords de Perpignan, mais aussi dans la Drôme, dans le Vaucluse, le Gard ou encore les Bouches-du-Rhône et le Var. Vents qui vont bien entendu garantir le soleil alors que le reste du pays sera soumis à un temps toujours aussi instable avec de gros passages nuageux, quelques éclaircies mais aussi des averses qui seront d'ailleurs assez fréquentes dans l'Est. Les températures seront toujours un petit peu justes sur la moitié nord du pays. Il fera 21 degrés à Brest, à Colmar, à Dinard demain après-midi, 23 degrés à Paris, à Cambrai ainsi qu'à Chambéry, 26 à Toulouse, comptez 27 à Bordeaux, 28 degrés à Marseille, 30 degrés à Bastia. Quant au reste de la semaine, il sera en principe un petit peu plus lumineux. D'une façon générale, les températures repartiront à la hausse, modérément, mais enfin elles le feront à partir de mercredi. Quant au vent, ils faibliront un petit peu dès mardi, mais sans cesser totalement.
Merci beaucoup Valérie Quintin. Allez, on repart en direction du Tour de France. Nicolas Georgerot, les coureurs qui affrontent les pavés des Champs-Élysées.
Le deuxième passage sur les Champs-Élysées avec une course maintenant qui est vraiment lancée. On a vu Alexis Renard, le français de l'équipe Cofidis, accélérer, sortir du peloton. Il vient d'être repris, mais un peloton en file indienne au moment où la patrouille de France passe au-dessus des Champs-Élysées et des coureurs
magnifique
du Tour de France, de ce peloton, pour donc leur rendre hommage. La patrouille de France au-dessus des Champs-Élysées.
Eh ben voilà, c'est ce qu'on aime, le bleu, le blanc, le rouge et la ferveur populaire. Merci Nicolas Georgerot.
RTL dimanche soir.
Guillaume Ouattara.
À 18h19 sur RTL, on reparle de cette réforme de la journée de défense et de citoyenneté. Fini les diapos pour découvrir les métiers de l'armée, place au lever de drapeau, au tir avec des armes laser et au déjeuner autour de rations de combat. Bonsoir Sophie Vénétité.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale du SNES-FSU, un syndicat enseignant. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, des initiations au tir, le salut au drapeau, c'est bien pour nos jeunes?
Bah écoutez, moi je suis assez perplexe devant le développement d'activités autour du jeu, comme par exemple le tir sportif laser, les jeux de stratégie, la réalité virtuelle. Il ne faudrait pas que ça donne une vision complètement enjolivée de la réalité militaire. Je pense que la réalité le montre sur les différents fronts dans le monde. La guerre, c'est violent, c'est dramatique, c'est pas un jeu. Donc c'est vrai que ça pose quand même question, ce développement d'activités ludiques. Et finalement, il serait certainement mieux que le gouvernement assume qu'à travers cette journée revue, c'est une opération de recrutement pour l'armée. Et qu'on se dise une bonne fois pour toutes que l'armée n'est pas le seul socle de la citoyenneté et que l'école a aussi un rôle à jouer dans la construction de la citoyenneté, dans le développement de la citoyenneté. C'est ça qui est un peu dérangeant, c'est qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures dans le discours politique actuel entre l'armée et l'éducation nationale. Or, l'école joue aussi un rôle fondamental pour former des citoyens.
Ça va coûter de l'argent tout ça, un peu comme le SNU, vous regrettez qu'il y ait des dépenses publiques pour cette vision militaire de la jeunesse?
Ce qui est certain, c'est que le SNU est déjà un gâchis d'argent public assez monumental. Et on sait bien que l'école publique aurait bien besoin de cet argent. On sait que l'école va aussi faire l'objet de restrictions budgétaires dans le budget 2026. Et là encore, les décisions qui sont prises enfin avec des choix budgétaires qui vont mettre quelque part la jeunesse plutôt dans la case armée que dans la case école, c'est quand même problématique. Ça pose question et ça dessine un avenir pour la jeunesse qui n'est pas celui que nous on porte. Nous au SNES-FSU, on souhaite vraiment que la jeunesse puisse avoir un avenir construit dans le cadre de l'école, un avenir qui participe à leur émancipation et à la construction de leur citoyenneté.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui diront que ça peut ne faire que du bien à la jeunesse, que ça va les remettre un peu sur le droit chemin, leur redonner des bonnes valeurs? Qu'est-ce que vous répondez?
Écoutez, je crois que c'est une vision très très erronée de la jeunesse. Nous, les jeunes, les élèves, on les voit au quotidien. On sait très bien que ce qui fonctionne, c'est quand on est capable de leur transmettre des choses sur le moyen terme, de décrypter des choses avec eux, de décrypter l'actualité, de participer aussi à une forme de socialisation, d'apprendre à vivre en société. C'est quand même ça le rôle de l'école, et on peut le faire quand on a un cadre qui est posé, qui serait celui de l'école, dans de bonnes conditions. Voilà le lieu où on peut apprendre à vivre ensemble. Et il y a quand même aujourd'hui, on en a besoin d'apprendre à vivre ensemble, et c'est certainement l'école qui peut jouer ce rôle plus que toute autre institution.
Et vous ne pensez pas qu'il y a une crise de l'autorité aujourd'hui, que les jeunes que vous côtoyez justement, ils manquent de cadre ?
Bon, écoutez, ça, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois, ces dernières années. Je me souviens qu'il y a Gabriel Attal, quand il était ministre de l'Éducation nationale puis Premier ministre, nous avait promis un choc d'autorité qui était complètement décalé de ce que nous on voit sur le terrain. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand on fait des rappels à la règle, quand il y a des élèves qui peuvent avoir des écarts de comportement, parce que ça existe, il faut pas le nier, mais quand on fait des rappels à la règle et que ça s'inscrit dans une dimension éducative, on est sur quelque chose qui sert sur le long terme, parce que ça vous permet aussi d'éviter des formes de récidive. Quand vous êtes dans une dimension éducative, vous apprenez aussi aux élèves, aux jeunes, à se comporter pour l'avenir et quelque part à faire société. Et ça, nous, on le voit tous les jours. On n'est pas, faut pas croire que l'école est à feu et à sang avec des élèves qui seraient sans aucune règle. C'est pas ça la réalité.
C'est pourtant ce qu'on entend un peu parfois dans le discours de certains, cette idée vraiment que l'école serait complètement démissionnaire, qu'il n'y a plus d'autorité ni chez les enseignants, ni chez les parents. C'est pas ce que vous avez le sentiment de vivre, vous ?
Bah écoutez, c'est peut-être ce que certains se plaisent à dire haut et fort, notamment du côté politique, mais en tout cas nous au quotidien, c'est pas ce qu'on voit. Il s'agit pas de sous-estimer les problèmes auxquels on est confronté, avec peut-être quelquefois aussi des problèmes d'autorité. Il faut pas les sous-estimer, il faut pas les surestimer. Il faut aussi se dire qu'on est capable d'y répondre collectivement et d'y répondre par à la fois des rappels à la règle, mais aussi tout un travail éducatif. Et l'autorité du professeur, elle se construit aussi par sa capacité à bien enseigner et à bien apprendre aux élèves.
Sophie Vénétité, dernière question très courte. Est-ce que vous pensez que c'est un premier pas pour un retour du service militaire obligatoire, et est-ce que vous y seriez favorable ?
Écoutez, c'est un vieux serpent de mer qui revient de temps en temps dans le débat public. Donc, on ne sait plus trop à quel moment il faut se dire est-ce que c'est un indice, est-ce que c'est pas un indice. Moi, aujourd'hui, ce que je suis en mesure de vous dire, c'est que s'il y a bien une institution dans laquelle il faut mettre de l'argent, une institution qu'il faut consolider, c'est l'école publique.
Merci beaucoup, Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU. Merci d'être venue ce soir sur l'antenne d'RTL.
Merci.
RTL. L'été dans le rétro.
L'été dans le rétro, chaque samedi et dimanche, Christophe Bourreau revient sur une innovation qui a changé la vie des automobilistes. Ce soir, gros plan sur l'arrivée et le développement des pompes à essence en France.
Nous sommes bien avant l'arrivée des pompes à essence, à la fin du 19e siècle. Et là, pas simple pour un automobiliste de se ravitailler, de faire le plein, explique Hervé Charpentier, le conservateur du musée de l'aventure Peugeot à Sochaux.
Alors au tout début de l'automobile, il faut bien s'imaginer qu'il n'y a pas de pompe à essence. Quand on veut aller acheter de l'essence, eh bien il faut aller chez le pharmacien ou chez le droguiste pour pouvoir se fournir en carburant.
Ainsi, les pharmacies, drogueries, mais aussi épiceries, sont les ancêtres des stations-service, et oui, où l'on trouvait d'abord de l'essence en bouteille, puis en bidon de 5 ou 10 litres. Et ce n'est que dans les années 20 qu'apparaissent en France les premières pompes avec un fonctionnement particulier.
C'est les Américains, évidemment, qui ont fait les premières pompes.
Thierry Dubois est le grand spécialiste de l'histoire de nos routes françaises et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.
Alors, c'était vraiment des pompes à main. Là, il fallait pomper pour faire monter l'essence et le verser dans la voiture. Alors, en général, il y avait deux globes transparents. Un se remplissait à la pompe pendant que l'autre se vidait dans le réservoir. Ça permettait pour le client d'être assuré que l'essence coulait bien dans sa voiture et qu'il y avait la quantité qu'il avait achetée.
Ainsi, les pompes à essence vont se multiplier à mesure que les voitures vont, elles, se démocratiser, mais pas toujours d'une super fiabilité.
Et il y avait ce qu'on appelait à l'époque la limite des 200 km, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui, malheureusement, ne dépassaient pas 200 km, parce qu'elles ne roulaient pas toute l'année. Et puis de se lancer tout de suite à 110, 120, 130 sur l'autoroute, le réveil était brutal. Et en général, le joint de culasse déclarait forfait à 200 km. Donc, on retrouvait plein de garages à 200 km de Paris.
Garage, pompe à essence, tout un commerce se crée dans les années 70. La France compte pas moins de 50 000 stations avec les pompistes à la manœuvre. Se souvient Marie-Thérèse Pousse, 84 ans, qui sert encore du carburant dans la station de son fils. Arnage, c'est près du Mans.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers ?
Du 95.
Je vous fais le plein ? D'accord.
Vous savez combien vous avez fait de plein dans votre vie à peu près ?
Impossible. Au début, on avait des voitures anciennes. J'étais obligée de monter sur l'aile pour arriver parce que le réservoir se trouvait au milieu du capot. Voilà, 41 euros.
Le maître mot, c'est le service. Et les enseignes vont de plus en plus chercher, par tous les moyens, à fidéliser les automobilistes, avec notamment les fameux cadeaux publicitaires.
Les gens de ma génération se souviennent des bateaux Fina, parce qu'avec un certain nombre de pleins d'essence, on avait d'abord une bouée, ensuite une grosse bouée, ensuite un matelas, et pour finir, un bateau.
Attends, mais je rêve ou quoi ?
Vous avez vu les nouveaux cadeaux qu'on peut avoir ?
Non.
Super.
Des verres ?
Des verres à pied, oui.
Ils sont chouettes.
Regardez, on peut aussi avoir des disques compacts.
Un super prix.
C'est loin d'être bête.
Mais c'est surtout le prix qui va devenir un argument pour attirer les clients. En pointe du combat, Leclerc, qui dans les années 70-80, milite pour un carburant plus accessible.
Ce matin, dans l'un de ces centres de la banlieue parisienne, c'était l'interminable procession des véhicules et de leurs conducteurs, attirés par la bonne aubaine.
Ayant appris la situation, je viens à toute vitesse, c'est normal. Ça vaut le coup de se déplacer, de venir essayer de faire un petit bénéfice.
Et finalement, en 85, les prix du carburant sont fixés librement. Une aubaine pour les grandes surfaces qui représente désormais près de la moitié des 11 000 stations en France et qui distribue 60% de l'essence.
Un été dans le rétro, tout l'été avec Christophe Bourré en replay sur RTL.fr et l'application de RTL. Dernière information sur cette négociation des droits de douane entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. Eh bien, Donald Trump affirme que l'Union européenne ne bénéficiera pas de droits de douane inférieurs à 15%. Le ton des échanges est donné. Bonsoir Cédric Chasseur.
Bonsoir.
On refait le sport, c'est tout de suite, le Tour de France, mais pas que.
Ah non, il ne vous aura pas échappé qu'on fête les 1 an des Jeux et nous serons avec un champion olympique, le premier champion olympique avec l'équipe de France de rugby à 7, Stéphane Parézédo, qui sera notre invité. Nous parlerons également de natation, puisque un an après les Jeux, il y a les Mondiaux à Singapour, Isabelle Langer est là-bas pour RTL. Et puis nous reviendrons sur le Grand Prix de Formule 1 de Belgique qui a eu lieu cet après-midi avec la victoire d'Oscar Piastri.
A tout de suite.
A tout de suite.
RTL dimanche soir avec Guillaume Ouattara.
17h56. 17h58.
L'enfer, le périph.
18h.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Bonjour, vous êtes bien sur mon répondeur. Mais si c'est pour me dire, allô patron, en ce moment chez Lidl, le melon Gallia est à 99 centimes le kilo avec Lidl Plus au lieu d'un euro 50, eh ben c'est pas la peine, je ris déjà jaune à cause de leur prix bas.
Moins 34% avec Lidl Plus, melon est mal patron.
Avec la garantie satisfait ou remboursé, Lidl vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait de la fraîcheur des fruits et légumes. Catégorie 1, origine Espagne. Offre valable jusqu'au 30 juillet. Plus d'informations sur Lidl.fr.
RTL. RTL.
On refait le sport.
Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
Cédric Chasseur.
Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver sur RTL. On refait le sport jusqu'à 19h et le club Jalabert exceptionnellement ce soir jusqu'à 21h pour vivre jusqu'au bout cette dernière étape du Tour de France. Nous serons d'ailleurs dans quelques instants avec Nicolas Georgerot qui sera notre fil rouge ce soir pour nous faire vivre la première montée, notamment de la butte Montmartre, tant attendue et qui va nous rappeler les Jeux Olympiques. C'était il y a un an déjà. Et oui, que de souvenirs qui remontent. La première médaille d'or le 27 juillet, c'était l'équipe de France masculine de rugby à 7 qui nous l'avait offerte. Stéphane Parézédo, l'un des héros de cette équipe tricolore, sera avec nous en direct. Un an après les Jeux, les meilleurs nageurs de la planète sont à Singapour pour les championnats du monde. On attend tous, évidemment, le retour de Léon Marchand dans les bassins, mais la première médaille française pourrait venir de Maxime Grousset demain, Isabelle Langer et l'envoyée spéciale de RTL sur place, et elle sera avec nous malgré le décalage horaire. Et puis le Grand Prix de Belgique de Formule 1 a débouché sur un nouveau doublé McLaren, Piastri devant Norris, course marquée par les choix, peut-être contestés, de la direction de course. Un départ retardé d'1h20, une safety car qui a multiplié les tours au début de la course. Tout ça à cause de la pluie. La Formule 1 est-elle devenue trop frileuse? Nous poserons la question à Frédéric Veil, notre spécialiste des sports auto sur RTL. Pour m'accompagner, Raphaël Bardonna est avec moi. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Cédric, bonsoir à toutes et à tous.
On refait le sport, c'est parti.
RTL.
On refait le sport.
Et donc direction tout de suite la route du Tour de France avec encore un peu plus de 51 km à parcourir pour les coureurs avant d'en terminer enfin avec la grande boucle. On va retrouver sur la route du Tour Nicolas Georgerot. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Est-ce que cette butte Montmartre tant attendue approche?
Oui, parce que ce sera bientôt le quatrième passage sur la ligne et ensuite eh bien les coureurs du Tour de France, Tadej Pogacar et tout le reste du peloton, et ils sont 160 dans ce peloton qui termine après 3 semaines de course, eh bien iront prendre la direction de la rue Le Pic, de faire le tour de la butte Montmartre, le tour du Sacré-Cœur, de redescendre par les boulevards, notamment le boulevard des Batignolles, boulevard de Courcelles, pour revenir sur ce circuit des Champs-Élysées. Ce sera le premier des 3 passages avec 2 hommes en tête, le 3e du général Florian Hippowitz, accompagné de l'américain, du champion des États-Unis Quinn Simmons. Ils ont un avantage de 10 secondes sur le peloton.
On a une idée, Nicolas, du premier passage, à quelle heure on peut l'espérer?
Je dirais dans maintenant 7 à 8 minutes à peu près.
On verra si votre précision légendaire est vraie ou non, et on vous retrouve dans 7 à 8 minutes alors dans ce cas-là, Nicolas. Vous ne bougez pas. A tout de suite, et on va évidemment continuer cette émission à toi.
Et c'est terminé. C'est terminé. Elle est là. Elle est là, la première médaille d'or française. Elle est pour les Bleus du rugby à 7. Ils sont champions olympiques pour la première fois de leur histoire.
Ça vous fait quelque chose cette musique, Raphaël, ou pas?
Les frissons, les souvenirs, les larmes aux yeux, tout ce que vous voulez.
C'était il y a un an, et on va demander à Stéphane Parezedo, qui était sur le terrain il y a un an, si lui aussi, cette musique, ses commentaires, ça lui fait peut-être quelque chose. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Cédric.
Ça fait toujours quelque chose ou pas?
Ah bah ouais, là c'est clair, hein. c'est des très très bons souvenirs, et puis là forcément il y a plein d'images, plein de vidéos, des commentateurs qui ressortent des secondes de commentaires, c'est juste incroyable à revivre.
Champion olympique de rugby à 7 avec l'équipe de France au Stade de France, c'était la première médaille d'or de cette délégation tricolore. Un an plus tard, donc c'est toujours aussi fort, les souvenirs restent intacts.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors oui, forcément, il y a toujours des petits moments qu'on oublie un peu, mais c'est toujours un plaisir de les redécouvrir par des photos, des vidéos, des anecdotes des amis, des collègues. Donc c'est toujours un grand, grand plaisir de pouvoir fêter une médaille d'or olympique et de se remémorer un peu de ce que c'était que cet été juste merveilleux.
À quoi ressemblait la vie de Stéphane Parezedo depuis un an, depuis le titre olympique?
Ça n'a pas changé grand-chose, il faut dire. C'est forcément, faut garder la tête sur les épaules. Et forcément, on a enchaîné sur le championnat. On était en totale reconstruction sur une nouvelle équipe avec énormément de jeunes, un nouveau staff qui est arrivé. Et forcément obligé d'être tourné vers 2028 pour réitérer et essayer de ramener une médaille et la plus belle des médailles.
La médaille, justement, vous en avez fait quoi des Jeux Olympiques, la médaille d'or?
Elle voyage, la partage autant que je peux. Elle est souvent avec moi et d'ailleurs je remercie Romain Dico qui a réussi à me faire une petite pochette pour qu'elle puisse ne pas s'abîmer à chacun de mes voyages. C'est vraiment sympa.
Elle vous quitte pas alors? Vraiment, c'est devenu un doudou?
Ouais, presque. Non. Sinon, elle reste sagement à la maison.
Raphaël Bardonna.
Bonsoir Stéphane. Dans une publication sur Instagram, Antoine Dupont a dit que l'équipe de France était liée à jamais par cette médaille. Depuis un an, il y en a certains qui sont retournés au rugby à 15, d'autres qui ont arrêté, qui font autre chose. Est-ce que vous échangez toujours avec l'ensemble du groupe?
Oui, tout à fait. Et je rejoins totalement ce qu'a dit Toto. C'est vraiment un lien qui est venu finaliser un peu toutes ces années de travail et de dur labeur mais dans un peu partout, des stages au Fidji, en passant par des entraînements sur la Tour Eiffel, la dune du Pilat, la puissance de l'océan, etc. C'est des choses, des efforts dans lesquels on a été on a essayé de se dépasser chacun pour le collectif et en fait le fait de remporter les Jeux Olympiques a fait que ce seront des liens à vie sur une date donnée qui est le 27 juillet, donc aujourd'hui.
Le retour sur le terrain après cette extase émotionnelle, est-ce que la vie n'a pas eu un peu un goût fade?
Ça dépend pour qui. Je pense que non, mais ça a été compliqué. On a été en vacances tout de suite après. On est parti en vacances ensemble pour se dire au revoir aussi. Et puis après, il fallait aussi se tourner vers l'avenir aussi, retrouver des objectifs. Et c'est vrai que du coup, les objectifs, ils sont durs à. Déjà, ils sont lointains pour ceux qui faisaient du rugby à 7, parce qu'on repart sur un cycle de 4 ans. Mais voilà, les objectifs sont venus naturellement aussi, surtout sur la construction d'un nouveau groupe, quelque chose qui était hyper important. Et puis, on avait un titre aussi à défendre qui était champion du monde. On finit 5e cette année, c'est quand même très prometteur. Et voilà, l'année prochaine, ça va être pareil, essayer de finir champion du monde pour préparer les qualifications l'année qui suit du mieux possible.
Stéphane Parezedo, qui est l'invité dont refait le sport ce soir sur RTL, Raphaël Bardonna a ouvert la porte. Vous avez lu sans doute les déclarations d'Antoine Dupont qui dit que la porte elle est ouverte pour les Jeux Olympiques de 2028. Il aimerait bien défendre le titre, c'est excitant, il dit les choses de cette façon. Évidemment, vous, des retrouvailles à Los Angeles, vous votez pour.
Bien sûr, et même avant.
Il faudra préparer même... comme pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, j'imagine.
Ouais, exactement. Bon, ça va être un peu difficile parce qu'il a prouvé qu'il pouvait intégrer le groupe assez tardivement. Et je pense que c'est ça qui fait sa force, parce que c'est un gros travailleur, quelqu'un de très humble et qui est très très intelligent dans sa façon de jouer. Donc il a réussi à s'adapter très vite et forcément le Stade Toulousain et le 15 de France ne veulent pas forcément le lâcher trop tôt. Donc il va falloir trouver une bonne balance comme ce qui a été fait l'année dernière. Et voilà, s'il faut le réaccueillir et accueillir d'autres joueurs du 15 de France, ce sera avec plaisir. Ça reste une sélection et le but c'est que le rugby à 7 puisse être le plus performant possible à Los Angeles en 2028.
Qui a le plus profité finalement de cette expérience olympique? C'est Antoine Dupont qui a le plus profité auprès de l'équipe de France de rugby à 7, ou c'est l'équipe de France de rugby à 7 qui a le plus progressé au contact d'Antoine Dupont?
C'est une bonne question. Non, je pense que réellement la venue d'Antoine Dupont elle nous a projeté une espèce de lumière qui était juste inimaginable. Je pense qu'on se rendait pas compte à quel point le monde entier a les yeux rivés sur les performances d'Antoine Dupont. Et en plus ça a été vraiment un énorme plaisir de pouvoir apprendre à jouer au rugby aussi à ses côtés, à échanger aussi sur les spécificités du rugby à 7. Et j'espère que oui, le rugby à 7 lui a apporté un maximum. Et je pense que rien que pour les émotions qu'il a pu vivre, on lui a apporté aussi de très belles choses. Et voilà, l'esprit olympique, c'est quelque chose qui est primordial et c'est quelque chose auquel on est très attaché.
Un dernier mot, Stéphane Parezedo. On parlait des souvenirs, de ces moments qui reviennent. Les pas de danse, vous vous en souvenez encore ou pas?
Ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens.
Vous les faites aussi de temps en temps pour vous replonger dans ce moment ou pas?
Non, alors personnellement non, mais mais aujourd'hui même on m'a demandé de les apprendre. Alors pour les personnes qui veulent apprendre, je suis toujours présent. Après, tant que toute l'équipe n'est pas là, je monterai pas sur scène tout seul pour faire les pas de danse. Mais voilà, pour la petite anecdote, on n'a pas fait toute la chorégraphie. Il manquait la moitié. mais on la maîtrisait pas assez encore pour pouvoir la faire au plein milieu du Stade de France. Donc j'espère qu'on va pouvoir la peaufiner et
faire en sorte de
la ressortir en 2028. Ça pourrait être chouette avec une nouvelle version.
Le rendez-vous est pris en tout cas. Merci beaucoup Stéphane Paraisedo d'avoir été avec nous sur RTL. Un an déjà, ça passe vite. Les Jeux Olympiques, c'était il y a un an, et la première médaille des Jeux, c'était l'équipe de France de rugby à 7. Très bonne soirée à vous sur la route du Tour, puisque vous étiez dans le car RTL juste à côté des Champs-Élysées. On va retourner d'ailleurs dans quelques instants du côté des Champs-Élysées et de Nicolas Georgeroy. Tout de suite.
RTL, on refait le sport
avec Le Parisien aujourd'hui en France. RTL présente Sting sur scène dans The Last Cheer, une production musicale spectaculaire pour la première fois en France à partir du 18 février 2026 à la scène musicale à Paris. Infos et réservations en point de vente habituel. The Last Cheer, écrit et composé par Sting. Un événement France Télévisions et RTL.
Archives secrètes, Johnny Hallyday, le podcast.
Allô ?
Oui, monsieur, bonjour.
Bonjour, c'est Johnny Hallyday.
C'est vrai, c'est Johnny ?
Oui. Je vous appelle parce que je crois qu'il faut que je mette le stop là. Parce que c'est passé depuis 9h ce matin. Et puis, il y a plein d'autres chanteurs à écouter.
Il est midi un quart, vous tenez l'antenne depuis 9h. Je crois que c'est un fait sans précédent dans les annales de la radio.
Archives secrètes, Johnny Hallyday, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL.
On refait le sport.
Avec Le Parisien aujourd'hui en France, Cédric Chasseur.
18h43 sur RTL, c'est On refait le sport jusqu'à 19h avec Raphaël Bardena à mes côtés. On suit évidemment la dernière étape du Tour de France. On parlait des Jeux Olympiques. On va saluer, juste avant de retrouver Nicolas Georgereau, Isabelle Langer qui est en direct de Singapour pour RTL. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir les garçons.
Bon, vous, une année sur l'autre, c'est le 27 juillet, piscine, quoi qu'il arrive.
Piscine, voilà. J'ai mis mon maillot, là, à minuit et demi, je suis encore avec vous.
2024, la piscine de la Défense. 2025, la piscine de Singapour, avec évidemment ces mondiaux de natation. On va en reparler dans quelques instants. On va vous demander de veiller un tout petit peu plus pour être avec nous, parce que dans quelques instants, il y a un moment tant attendu, la première montée de Montmartre, la rue Lepic. Nicolas Georgereau, les coureurs, la tête du peloton approche de cette fameuse montée.
Dans le 17e arrondissement, boulevard des Batignolles, pour ceux qui connaissent Paris, bientôt la place de Clichy, puis ensuite quelques virages à droite et à gauche pour aller prendre cette rue Lepic, un peloton en file indienne qui roule à très très vive allure, et avec notamment les équipiers de Julian Alaphilippe, la formation Tudor, qui emmène ce peloton. Et on voit aussi le maillot jaune Tadej Pogacar qui est en train de se repositionner à l'avant. On voit aussi Wout van Aert avec deux équipiers. La place de Clichy justement à l'instant passé par ce peloton. Ça va vite, ça va très très vite. Les Vélib parisiens vont un peu moins vite dans cet endroit quand ils sont en train de remonter ce boulevard, mais là ça va vite. On est vraiment à plus de 45-50 km/h avec ce virage à droite. Et là maintenant ça va devenir un petit peu plus technique. Il y a une foule incroyable au bord de la route dans ces rues parisiennes.
Pas vraiment de pluie à Nicolas pour l'instant.
Non, alors il y a eu quelques gouttes tout à l'heure sur les Champs-Élysées. Je vous l'ai dit aussi, les temps ont été figés au quatrième passage de la ligne, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conséquences au classement général avec ensuite ce virage qui va être abordé. Et maintenant les coureurs du Tour de France vont être un an après ces images incroyables des Jeux Olympiques en train d'aborder la côte de la butte Montmartre avec la rue Lepic, ce monde incroyable, ce public international avec ses foules sur des fois 6, 7, 8 rangs et qu'il galvanise les coureurs. On voit Julien Alaphilippe en deuxième position et avec Wout van Aert aussi, on sent vraiment tous les frissons qui parcourent ce peloton du Tour de France. Les danseuses du Moulin Rouge qui font le French Cancan au passage du Tour, c'est absolument incroyable, ces images, ces foules, cette foule incroyable, vraiment comme il y a un an avec ce peloton du Tour de France, donc qui est en train de découvrir tout ça. On est à 700 mètres de la butte et avec encore une attaque, l'attaque de Julian Alaphilippe à l'instant. Julian Alaphilippe qui a retrouvé des jambes dans cette troisième semaine Rennes et qui est poussée par le public et qui se dresse sur les pédales en danseuse pour forcer la décision à 500 mètres du sommet de la côte de la butte de Montmartre. Incroyable, Julien Alaphilippe qui fait cet effort dans les plus forts pourcentages. On est à moins de 40 km de l'arrivée, c'est absolument incroyable. Franchement, ça fout les frissons de voir ces images-là, de voir ce peloton du Tour avec notamment le maillot jaune Tadej Pogacar qui va essayer de revenir aux avant-postes.
Vous entendez évidemment le bruit, l'ambiance, et qu'est-ce que ça doit être dans la tête des coureurs. On va retrouver dans la rue Le Pic Thibaut Hu, envoyé spécial de RTL, qui s'est glissé dans l'appartement d'un des chanceux qui habite dans cette rue Le Pic. L'ambiance, Thibaut, au passage des coureurs, ça devait être quelque chose.
Cédric, j'ai même du mal à vous entendre, tant l'ambiance est indescriptible ici, vous l'entendez derrière moi. C'est une foule en liesse qui attendait depuis des heures, certains depuis très tôt ce matin pour apercevoir les coureurs. Et voilà, ça y est, depuis quelques instants, ils peuvent les acclamer. Une ambiance indescriptible. La pluie s'est arrêtée. On n'a pas encore de soleil malheureusement, mais la pluie s'est arrêtée il y a quelques instants. Voilà, comme un symbole. Donc c'est une marée à poids rouge qui est devant moi. Et ce public, voilà, qui ne veut pas me laisser parler. Quelle ambiance, Cédric, quelle ambiance, cette dernière étape qui s'annonce, voilà, cette fin de dernière étape qui s'annonce complètement électrique.
Avec Nicolas, juste pour terminer, le maillot jaune qui a décidé de reprendre les commandes.
Oui, et qui est dans un petit groupe où il y a Julien Alaphilippe et où il y a Wout Van Aert. On se demandait si Tadej Pogacar allait vouloir gagner avec le maillot jaune sur les épaules. Ça n'est arrivé qu'une seule fois. Bernard Hinault en 79 et 82 sur les Champs-Élysées. Peut-être Tadej Pogacar voudra s'imposer tout à l'heure. 39 km à parcourir.
À tout à l'heure, Nicolas, et merci à Thibaut Hu. On retrouve l'ambiance un peu plus tamisée de Singapour.
C'est pas c'est sûr, je suis dans ma chambre à minuit et demi. La piscine, elle est fermée. Piscine, je dors depuis bien longtemps. Mais piscine, merci à Nicolas Georgerot de me faire vivre par procuration, grâce à sa sublime description, ce qui se passe rue Le Pic et à Paris sur ce Tour de France.
Ah, c'était quelque chose. Bon, même à la piscine cet après-midi, c'était un peu plus feutré.
Ouais. Ambiance plus feutrée, franchement, je préférais l'ambiance, et vous n'allez pas me contredire, de l'aréna de Nanterre l'année dernière, où ça hurlait à chaque coup de bras. Là, ça sonne un petit peu creux, mais bon.
Vous voulez un souvenir? On va bousculer un tout petit peu en régie. On vous a préparé un petit souvenir, Isabelle Langer, de ce qui s'était passé en 2024. Écoutez.
Allez Léon, il y va. Il reste une quinzaine de mètres. Allez, 25 mètres. On y va Léon pour aller chercher ce troisième titre olympique. Pour
il accélère, il accélère.
Il accélère encore.
Et il change le tempo.
Et le public qui le pousse. Léon Marchand. C'est notre Marchand de rêve.
C'est juste le héros.
Attention, champion olympique.
2 minutes 5 secondes. Oh là là, il était vraiment pas loin du record du monde.
Extraordinaire. Incroyable.
On est vraiment dans l'instant
ça
nostalgie.
Encore des frissons mais oui, évidemment. Grégory Mallet.
Bon, Léon Marchand, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, le héros français du jour, il s'appelle Maxime Grousset. Ouais. C'est la première chance de médaille demain lors de la deuxième journée.
13h47, connectez-vous ou écoutez RTL parce que ce sera en direct sur votre radio préférée. Aujourd'hui, il a vraiment affolé les chronos. Il a été le plus rapide en demi-finale, meilleur chrono mondial de la saison, 22 secondes 61. Nouveau record de France aussi. C'était un record de France qu'il avait déjà battu au championnat de France à Montpellier en juin dernier. Là, il lui a mis 9 petits centièmes. Mais écoutez, Maxime Grousset, plutôt très très content à la sortie du bassin.
Très content, on est des gosses, on est content d'améliorer nos chronos. Le fait d'être premier, c'est cool aussi. Un dixième devant, c'est assez short quand même, mais je pense qu'il y a encore un peu mieux à faire.
Vous fracassez le record de France quand même.
Fracasser, non, c'est un dixième, c'est pas 4 dixièmes d'un coup, quoi, mais c'est bien, franchement. Et je peux pas cracher dessus, surtout que voilà, je suis encore un au ranking, mais le plus important, ce sera d'être un au ranking demain. Donc voilà, ça promet de belles choses. Après, on va rester tranquille, concentré, on va continuer à faire des bonnes choses.
Ah ouais, parce que l'année dernière, aux Jeux Olympiques, il s'était un petit peu manqué en individuel. Il s'était consolé avec la médaille du bronze du relais 4x104 nage. Donc demain, il a vu cette première médaille sur le 50 mètres papillon qui, rappelons-le aussi, sera une nouvelle discipline aux Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. Et vous savez ce qu'il fait pour se concentrer dans la chambre d'appel avant la course ?
Non.
Eh bien, il écoute de la musique. Et ce soir, je lui ai dit, t'écoutais quoi ? C'était quoi le son ? Écoutez ce que c'était.
Très détente.
Très détente. Bob Marley pour une course hyper excitante. explosif comme le 50 mètres papillon. Je veux comprendre comment ça switch dans le cerveau de Maxime Grousset. En tous les cas, il est en forme. Rendez-vous demain à 13h47 pour la finale. Du côté des autres Français aujourd'hui, on saluera la belle 5e place du relais 4x100 féminin. Record de France d'ailleurs à la clé pour les filles qui ont tenu finalement leur rang. La petite déception, c'est le relais masculin qui ne s'est pas qualifié pour la finale. Mais c'est tout jeune ce relais masculin, donc il va grandir. La victoire pour l'Australie sur les deux relais, hein, chez les femmes et chez les hommes. Et puis Anastasia Karpechnikova, alors elle nous a fait un petit peu peur, hein, 19e des séries du 400 mètres ce matin, elle s'est pas qualifiée pour la finale. Demain, elle entre en lice sur les séries du 1500 mètres. On rappelle qu'elle est vice-championne olympique en titre. Bon voilà, l'année dernière, c'était un peu le même scénario à Paris, puis elle nous avait étonné, elle est allée chercher cette médaille d'argent. Donc on espère bien que ce sera la même chose, la finale ce sera mardi.
Il y en a une, vous avez parlé du 400 mètres nage libre féminin qui est sur le même rythme que les Jeux Olympiques, c'est la Canadienne Summer McIntosh.
Ouais, 18 ans, c'est la nouvelle star féminine hein, de la natation, c'est un peu le pendant féminin de Léon Marchand. L'année dernière, elle avait fait 3 titres à Paris sur le 200 pape et le 200 et 404 nages. Aujourd'hui, bah, écoutez, elle était tranquille, hein, elle a remporté son petit 400 mètres. Son objectif à Singapour, c'est d'entrer dans la légende de la natation, remporter comme son idole 5 titres mondiaux. Bah, elle est bien partie pour le moment. Pour la petite histoire, depuis le début de l'année, elle s'entraîne avec un certain Frédéric Vergnoux, c'est un coach français qui est très connu dans le milieu de la natation. Il a beaucoup entraîné les Espagnols notamment. Voilà, c'est un petit contrat avec lui de 9 mois. Elle a navigué entre Antibes et Font-Romeu. À la rentrée, elle retrouvera Bob Bowman, le même entraîneur que Léon Marchand aux États-Unis. Mais ça réussit bien en tous les cas entre le duo franco-canadien. Et puis, on l'attend encore cette semaine sur des belles courses, le 200 mètres papillon, le 800 mètres, le 404 nages et le 204 nages. Et elle s'est qualifiée aujourd'hui tranquillement pour la finale avec le meilleur temps. Il y avait une invitée spéciale aussi, hein, Cédric, sur ce demain
nages.
Pour cette finale du 204 nages.
Vous faisiez quoi, vous, à 12 ans?
À 12 ans, moi, je joue encore au Barbie, je pense. Hein. Ouais. Elle, c'est une prodigieuse chinoise. Elle s'appelle Zhu Zidi. Officieusement, hein, lors des championnats en Chine, il y a 2 mois, elle a établi le record du monde junior du 200 mètres 4 nages. Bon, c'est pas un vrai record officiel parce que ça n'existe pas vraiment. Mais elle a survolé le 404 nages et le 200 mètres papillon avec les temps qu'elle a fait. Imaginez, hein, elle a 12 ans. Hein. Elle aurait été au pied du podium des Jeux Olympiques à Paris l'année dernière. Voilà, vous avez le nouveau phénomène de la natation. Et du coup, Summer McIntosh, elle fait presque vieille à côté d'elle.
Bon, et dans Léon tout Marchand. Ça, on n'a pas parlé de Léon Marchand encore. Rapidement, Isabelle, Léon Marchand, vous l'avez retrouvé, il est dans quel état ?
Il est plutôt tranquille, il est revenu sur sa décision de ne disputer que 2 courses sur ces mondiaux, 200 et 404 nages. On l'écoute ? Allez, on a le temps, on écoute juste temps, ça. Allez.
J'ai eu une année un petit peu difficile, mais je suis blessé à la côte. Donc, j'ai commencé à travailler dur assez tard cette année. Donc, forcément, il y a eu la question de se poser, est-ce que vraiment je me mets à 100% pour les championnats du monde? Moi, j'ai pas trop douté, je savais que j'avais envie de les faire. Je savais que c'était important pour moi de me remettre dans le bain à ce moment-là, ici. Donc voilà, et après le programme allégé. Et je pense que c'est important parce que ça permet de respirer un peu. Alors là, je commence pas dimanche, je me précipite pas surtout, j'ai le temps de prendre le temps. Donc ça fait du bien, c'est différent, c'est une approche différente. Et je pense que ça va m'aider à reprendre mon chemin tout doucement, quoi.
Voilà, tranquille, hein, Léon Marchand.
Ambitieux quand même, malgré les...
Oui, il est ambitieux, c'est ce que j'allais dire. Hein. Sur ce 204 nages, pourquoi il a aussi balayé le 200 papes et le 200 brasses? C'est parce qu'il va commencer sur ce 204 nages et à la clé, il va aller battre le record du monde d'un certain Ryan Loctis, un record qui existe depuis 2011. Et il se dit, bon, il est temps de l'effacer un petit peu des tablettes, comme il l'avait fait sur le 404 nages avec Michael Phelps.
Merci,
donc,
Isabelle.
Donc rendez-vous jeudi soir pour ça.
On le note. Enfin, pour nous, jeudi après-midi.
Jeudi après-midi,
évidemment. Exactement. Et pour vous, il est l'heure d'aller se coucher, maintenant.
Bien
Merci
sûr.
Merci Isabelle Langer d'avoir veillé un petit peu. Et bonne soirée à vous, du côté de Singapour.
RTL. On refait le sport.
Ouais, ça allait bien, cette petite virgule natation. Allez, il reste un petit peu de temps. On va retrouver Frédéric Veil. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Cédric.
Évidemment, le Tour de France nous a mangé un petit peu de temps. Il nous reste 4 minutes pour revenir sur ce Grand Prix de Formule 1 de Belgique avec ce doublé McLaren. Mais j'ai surtout envie de vous parler de cette gestion de la météo. On a l'impression que la Formule 1 ne sait plus rouler sous la pluie.
Oui, ça arrive de plus en plus souvent. Ce n'était pas arrivé d'ailleurs à Silverstone il y a trois semaines, mais là, bah, on a attendu 1h20 pour finalement lancer la course à 16h20 au lieu de 15h. On a fait 4 tours derrière la voiture de sécurité une fois que la piste était quasi sèche. Alors ça, c'était la décision de Rui Marquez, hein, le directeur de course, qui a impacté les écuries qui avaient choisi des réglages pour disputer le Grand Prix sous la pluie. Mais depuis quelques années, vous l'avez dit, quand il y a une piste détrempée, ben c'est la sécurité qui prévaut. Et tous les pilotes, tous les patrons d'écurie ont salué d'ailleurs tout à l'heure cette décision de reporter le départ. Car selon eux, il n'y avait aucune visibilité sur les tours de formation. Et on le sait, à Spa, ben ça peut vite se terminer en carnage. Rappelez-vous en 98, hein, le gros carnage au départ sous le déluge, la sortie de piste de Coulthard, les 13 voitures impliquées. Faut comprendre qu'ici à Spa, quand il pleut, c'est pas du crachin normand, c'est de la grosse, grosse pluie. Et dans les secteurs montagneux et boisés du circuit, eh bien ça gêne vraiment le filotage. Bon, dans notre malheur, dans le malheur des 300 000 spectateurs qui étaient dans la tente et sous la pluie, on a quand même eu une course. Contrairement il y a quelques années, rappelez-vous, en 2021, lorsque Verstappen s'était imposé, il n'y avait eu que 3 tours de circuit derrière la voiture de sécurité, ce qui avait fait de ce Grand Prix de Belgique le Grand Prix le plus court de l'histoire de la Formule 1. Reste qu'on n'empêchera pas tout de même de penser qu'aujourd'hui, on sort à chaque fois le parapluie du côté de la FIA. Ce qui n'est pas normal, surtout, c'est que Pirelli a fait des pneus super pluie. Nous ont les os exposés à Spa pendant 4 jours. Ils étaient là, bien mis. Et bien, pour ce genre de Grand Prix, pas une monoplace n'en était équipée. Tous sont partis en pneus intermédiaires.
Non, mais c'est quand même incroyable. Il faut penser quand même aux spectateurs qui, eux, étaient sous la flotte pendant que les pilotes attendaient qu'on leur donne le go pour pouvoir partir. C'est vrai que le spectacle a été un peu gâché cet après-midi du côté de la Belgique. Merci Frédéric. C'est vrai qu'on devait parler de McLaren. On devait